Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur une véritable anomalie politique. Je parle du premier tour de l'élection présidentielle turque du 14 mai 2023.
Un scrutin vraiment fascinant.
Complètement. La question centrale de notre échange aujourd'hui, c'est comment le président sortant a pu déjouer tous les pronostics. Il a frôlé la victoire, 49,52% des voix, alors que le pays subissait une inflation vertigineuse de plus de 85%. Et surtout, la Turquie sortait à peine du séisme dévastateur de février.
C'est ça.
Pour moi, je suis convaincue que c'est la preuve que le récit identitaire et sécuritaire peut totalement écraser la réalité matérielle d'un pays.
Ouais, je l'analyse quand même très différemment. Pour moi, ce résultat, ce n'est pas un triomphe de l'idéologie ou un aveuglement, c'est plutôt l'illustration d'un vote extrêmement pragmatique face à une opposition hétéroclite. Les électeurs ont tout simplement et rationnellement choisi la stabilité institutionnelle.
Mais quelle stabilité, enfin ! Au moment du vote, le pouvoir est dans une vulnérabilité extrême, quoi. L'économie est littéralement à genoux.
C'est vrai que la situation économique était critique.
Et la réponse initiale de l'État après le séisme a été perçue par beaucoup comme chaotique, très lente. N'importe où ailleurs, ça signe la fin automatique d'un mandat. Pourtant, le pouvoir a imposé son agenda. Ils ont inauguré des navires de guerre, des centrales, ils vantaient leur industrie de drones. Et ça a marché. Parce que dans un moment de vulnérabilité absolue, projeter cette image de puissance militaire stricte et utiliser une rhétorique très agressive contre le terrorisme, ça a suffi à combler psychologiquement le vide d'un bilan matériel complètement catastrophique.
C'est un peu réducteur de parler d'une population juste charmée par des navires de guerre, tu ne crois pas? Mets-toi à leur place une seconde. C'est comme être sur un bateau qui prend l'eau en pleine tempête. Face au président, tu avais la fameuse table des six.
La coalition de l'opposition.
Exactement, menée par Kemal Kılıçdaroğlu. Cette coalition promettait de démanteler le système hyper-présidentiel actuel pour revenir à un régime parlementaire. Le problème, c'est qu'elle mélangeait des kémalistes, des nationalistes farouches, des libéraux. L'opposition proposait en fait de construire un nouveau bateau à six mains au beau milieu de l'ouragan.
Je vois l'idée.
Oui, ça semblait bien plus terrifiant que de rester avec le capitaine actuel, même si, on est d'accord, il est en grande partie responsable de la voie d'eau.
L'image est frappante, mais elle se heurte à la réalité géographique du scrutin, tu vois. Regarde les grandes métropoles comme Istanbul ou Ankara, et tout le littoral méditerranéen. Ils ont massivement voté pour l'opposition.
Tout à fait.
Ces zones, qui sont les véritables moteurs économiques du pays, elles ont voulu sanctionner ce qu'on appelle la politique économique non orthodoxe du président. Je veux dire, son obstination à forcer la baisse des taux d'intérêt avec une inflation pareille. Ça a littéralement détruit la valeur de la livre face au dollar. Ces électeurs-là ont très bien compris que le navire coulait financièrement.
Absolument, le vote de sanctions économiques a vraiment existé dans ces métropoles. Mais c'est là que la dynamique devient fascinante, en fait. Regarde le cœur rural anatolien. Et surtout, regarde les provinces meurtries par le séisme de février.
Ouais, les zones sinistrées.
Elles ont voté en bloc pour le président sortant.
Attends, c'est justement ça qui défie toute logique. Comment tu peux expliquer que des populations dont les maisons se sont effondrées reconduisent le gouvernement responsable des normes de construction?
C'est tragique, mais c'est le cœur de cette élection, la hiérarchisation des peurs. Pour ces électeurs, qui sont devenus instantanément dépendants de la reconstruction étatique, la peur d'un effondrement de l'État sous une coalition fragile, c'était supérieur à la réalité de l'effondrement de leur propre maison. Ils ont voté pour celui qui détenait déjà les leviers.
D'accord.
D'ailleurs, la mécanique institutionnelle a verrouillé ça. Lors des législatives simultanées, l'Alliance populaire a obtenu 322 sièges sur 600. Élire l'opposition à la présidence face à cette assemblée, ça signifiait une paralysie totale de l'État. Le ralliement du candidat ultranationaliste Sinan Oğan au second tour confirme totalement cette recherche implacable de l'ordre face au chaos.
De l'ordre politique peut-être, mais à quel prix matériel ? Les marchés financiers, eux, ne s'y sont pas trompés. Dès la réouverture des bourses après ce premier tour, les cambistes ont acté la victoire inévitable du président et donc la poursuite de sa politique des taux bas.
Avec les conséquences qu'on connaît.
Exactement. Le résultat, c'est que la monnaie a de nouveau décroché brutalement. Ce vote pour la fameuse stabilité institutionnelle, ça s'est traduit le jour même par l'acceptation assumée d'une instabilité économique chronique. Au final, l'affect patriotique et la soif d'autorité l'ont vraiment emporté sur le portefeuille, quoi.
Ou alors c'est vraiment l'instinct de survie face au vide institutionnel qui a primé.
Mais s'il y a une chose sur laquelle on ne peut qu'être d'accord, au-delà de nos deux lectures, c'est la vitalité spectaculaire de cet électorat.
Ah oui, tout à fait. Avec 87% de participation et une mobilisation massive incluant la diaspora, ça prouve que les électeurs croient fondamentalement en l'impact de leur bulletin de vote, même au cœur d'une polycrise systémique.
C'est la grande leçon de ce scrutin. Malgré d'immenses difficultés, l'acte démocratique conserve un poids phénoménal.
C'est ce qui rend cet échange si riche en enseignements. En période de crise existentielle, qu'est-ce qui rassure le plus un peuple ? Une promesse de changement radical pour réparer l'économie ou bien la figure d'un pouvoir fort pour garantir la continuité de la nation coûte que coûte. Nous vous laissons en tirer vos propres conclusions.